France Inter.
Bonjour, c'est Jeanne Chéral. Je suis une auditrice très très assidue d'Affaires Sensibles, parce que déjà tous les sujets m'intéressent. Et puis je trouve que non seulement c'est très très bien écrit, mais en plus il y a toujours un point de vue féministe dans les épisodes. Alors bon anniversaire Affaires Sensibles.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Richard Descoings, l'électron libre. Le 3 avril 2012, on apprend sa mort, survenu à New York dans des conditions, disons, opaques. Car au-delà des circonstances de sa disparition, c'est une personnalité hors norme que les étudiants pleurent à l'église Saint-Sulpice lors de ses funérailles. Une façon de gouverner inédite, une politique ambitieuse, disruptive, dirait-on aujourd'hui. Création de campus multiples, passerelles avec les universités étrangères les plus sélectes, convention ZEP, jamais Sciences Po n'avait connu autant de bouleversements en si peu de temps. Aux commandes, Richard Descoings, un homme d'à peine 40 ans, heureux de transcender les clivages politiques des années 2000, séduisant autant la gauche que la droite, jusqu'à se brûler les ailes, oubliant au passage que Sciences Po n'est pas identité de Wall Street. Alors qui était vraiment Richard Descoings ? Un homme en avance sur son temps, trop peut-être. Retour sur un parcours ombrageux et puissant qui a changé le destin de Sciences Po pour en faire un Harvard à la française. Notre invité aujourd'hui, Xavier Brunswick, ancien directeur de la communication de Richard Descoings, spécialiste des questions d'image publique et de gestion de crise. Il a publié en mai dernier dans Les Échos une tribune au vitriol contre la dégradation de l'esprit Sciences Po. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Sophie Bobert, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Étienne Bertin.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Berlin, 12 juillet 2001, 9h du matin. 600 étudiants français du style bien-né descendent du train de nuit en provenance de Paris. Tous s'accordent à dire que le voyage a été épique. Un voyage offert par Guillaume Pépi, le directeur de la SNCF. Il n'est pas le seul à avoir mis la main à la poche. Les autres sponsors se nomment L'Oréal, SFR, The Financial Times. Mais comment comprendre que de telles institutions prennent le soin d'accompagner de simples étudiants outre-Rhin ? C'est que leur programme est pour le moins alléchant. Après un forum entreprise à la Maison des Cultures du Monde, tous ont rendez-vous à 15h avec Joschka Fischer au ministère des Affaires étrangères, puis à 18h à la chancellerie pour une photo aux côtés de Gerhard Schröder. Énorme ! Et ce n'est pas fini, car une surprise les attend en la personne de Kofi Annan, le secrétaire général des Nations Unies soi-même. Pourquoi de tels privilèges ? Parce que ces étudiants sont issus de Sciences Po et que leur directeur, Richard Descoings, les accompagne, notamment pour créer des passerelles entre son école et les facs étrangères. Et tous exultent. Cette journée est une telle réussite. Alors quoi de mieux pour fêter ça que la Kalsusrhein, une ancienne usine de l'ex-RDA reconvertie en boîte de nuit avec ses trois pistes de danse et sa Love Lounge. La fête est si dingue que 20 ans plus tard, sur le réseau social LinkedIn, les anciens la commandent encore. L'un d'eux s'appelle Gaspard Ganzer, devenu depuis conseiller com de François Hollande, avant de virer macroniste. Voilà qu'il diffuse une photo de l'époque qui engendre les commentaires suivants parmi ceux qui ont vécu comme lui cet événement.
C'était un 12 juillet 2001.
Gaspard Ganzer.
Nous avions rencontré Schröder, Fischer et Kofi Annan. L'ambassadeur de France nous parlait du film Jules et Jim, Richard Descoings, d'amour.
Je m'en souviens comme si c'était hier. Quelle soirée.
Promis. La prochaine fois, on sera plus sage.
Il faut aussi rappeler le voyage en train, transformé en discothèque ambulante.
Ce voyage de promo est l'un des trucs les plus fous et les plus rock'n'roll que j'ai eu à faire dans ma vie professionnelle.
Xavier Brunswick.
Entre les repérages réalisés des mois avant, l'encadrement des étudiants, la liste des douches et des chiottes de Berlin, la présence surprise de Kofi Annan, la gestion des étudiants bourrés dans le train retour et l'exfiltration de Descoings à la Kalsusrhein, je ne me suis pas ennuyé.
L'exfiltration de Descoings à la Kalsusrhein, oui, véridique. C'est Xavier Brunswick qui s'en souvient. Il est l'un des seuls Français à rester sobre cette nuit-là. Ancien étudiant syndicaliste chez Sud, Il s'était fait repérer par des coins un jour qu'il dévalait l'escalier de l'école en tri. Un style offensif qui avait tapé dans l'œil du directeur, qui lui avait d'emblée proposé un poste à la com. C'était comme ça avec des coins, rapide, audacieux et plutôt bien vu. Car c'est le jeune Brunswick qui, durant cette nuit à la Carl Scheune, a les bons réflexes. Son directeur se saoule et danse torse nu sur la piste. Il faut agir. Détail dans le livre Richie de Raphaël Baquet.
Le directeur qui continue son effeuillage, les appareils photos, les étudiants surexcités, le jeune homme a vu le danger. Pour donner le change, il fonce sur la piste de danse, enlève lui aussi sa chemise comme s'il s'agissait d'un jeu, puis d'un geste fait signe aux appariteurs pour l'aider à l'exfiltrer. Alors le banquier Morgan Stanley pioche dans son carnet d'adresses le numéro de téléphone d'un de ses amis, diplomate de l'ambassade de France, qui propose son appartement. Là, sur le canapé du salon, il tente de calmer Richard. Devant ses amis épouvantés, l'homme habituellement si flamboyant pleure comme un enfant.
Mais qui est donc ce directeur capable d'organiser une rencontre avec les ténors de la politique puis de s'effondrer comme un ado ? Étonnamment, dans la série de commentaires rendus publics en 2021 sur LinkedIn, seul un ancien élève le critique. Devenu enseignant dans une cagne prestigieuse, il s'indigne. Comment peut-on encore idéaliser l'héritage ? Cet aveuglement idéologique est tragique, dit-il. Mais personne ne répond à ce commentaire, comme si, 20 ans après, il était toujours sacrilège d'émettre la moindre réserve sur Richard Descoings. Il y a pourtant matière à s'interroger. Au Monde, qui lui propose en 2006 de se prêter au portrait chinois, Descoings accepte. À la question si la France était un personnage de roman, il répond Phèdre. Autrement dit, le devoir qui l'emporte sur la passion. Un genre littéraire, Tocqueville. Une œuvre d'art, Le Grand Palais ou Le Taj Mahal, en hymne à l'amour. En somme, l'homme apparaît comme un romantique de droite. Sauf que le lendemain, il redevient progressiste et lâche sa devise « Pour être innovant, il faut être déviant ». Mais l'a-t-il toujours été déviant ? Non. Enfant, il grandit dans les beaux quartiers, tenu par des parents médecins et exigeants. L'enfant sent bien ce qu'on attend de lui, une promotion sociale sans frein. Or, au lycée Henri IV, voilà qu'un enseignant lui interdit de faire Sciences Po, arguant que ce serait du suicide intellectuel. Est-ce sa famille qui le pousse à transcender cette figure de l'autorité ou la part ombrageuse de lui-même ? Nul ne le sait. Mais il y va quand même, décroche son diplôme, puis intègre l'ENA après 3 tentatives. Son profil ? Secret. Explication dans le livre Richie de Raphaël Baquet.
Et pourtant, à l'ahurissement général, lors du classement de sortie au printemps 1985, ce garçon transparent a obtenu la 10e place. Couronné dans la fameuse botte qui rassemble les meilleurs élèves, il a choisi le Conseil d'État. Le jour de ce fameux classement qui a brisé les espoirs des uns et a assuré l'avenir des autres, l'un de ses condisciples, outré de voir ce garçon qu'il tenait pour insignifiant rafler une place dans l'Olympe des grands corps, s'est avancé vers lui avec ce cri du cœur « Mais tu es qui, toi ?»
Oui, il est qui ? Eh bien, il est celui qui traverse l'ENA en costume impeccable le jour et qui danse en pantalon de cuir la nuit dans les barguets. Une double vie exténuante, souvent empreinte de cocaïne. Nous sommes dans les années 80, la fête bat son plein. Le sida aussi, sans que les pouvoirs publics ne réagissent. Eh bien, lui est aux premières loges et constate les ravages de la maladie. Alors, un soir de février 85, l'un de ses amis le convainc de rejoindre une nouvelle association qui se nomme AIDE et qui vient de s'implanter à Paris. Descoings accepte et découvre une assemblée d'hommes drôles, brillants, tempétueux. Et il y apprend à s'assumer, mais surtout à manier ce levier inhérent à tout projet, lever des fonds privés. Quelle période passionnante! D'autant qu'au Conseil d'État, Descoings rencontre celui qui va partager sa vie, Guillaume Pépi, le directeur de cabinet du patron de la SNCF. Sauf que lui se cherche encore un projet. Et il sent bien qu'il ne parviendra pas à rester auditeur au Conseil d'État, qu'il a en lui une force qui ne demande qu'à se déployer. Mais enfin, quelle entreprise rejoindre ? Car aucune ne l'intéresse vraiment. Un parti politique alors ? Pourquoi pas, mais bien que socialiste, il peine à adhérer entièrement au programme du PS. Et puis, dépendre d'une nomenclatura, c'est trop aliénant. À bien y réfléchir, c'est à l'école que ses souvenirs sont les plus heureux. À Sciences Po. Ça tombe bien, car le directeur, Alain Lancelot, cherche un nouveau conseiller. Rendez-vous est donc pris. Mais lorsque, de retour au 27 de la rue Saint-Guillaume, il longe la péniche, c'est le long banc en bois qui ornoule, l'esprit des lieux lui semble empreint d'un sérieux passéisme. C'est-à-dire que tout lui paraît figé. À l'image de ce reportage diffusé dans les JT de 13h lors des 99 ans de l'école. Nous sommes le 26 novembre 1971 et le reporter demande à des étudiants de définir ce fameux esprit Sciences Po.
Dont le plus gros point faible, c'est qu'elle s'adresse essentiellement à une élite, et une élite qu'on peut situer socialement comme une élite bourgeoise.
On dit dire que Sciences Po est en majorité bourgeois, c'est sans doute vrai, mais c'est, je crois que c'est que le reflet d'université en général.
C'est très ennuyeux, et c'est très surfait, c'est très artificiel.
Alors pourquoi y êtes-vous ?
Ah ben je me demande. J'y croyais après mai 68, je croyais qu'on recevait une formation politique, ici, spécialisée, et en fait, il y a... Apparemment, c'est l'endroit où l'enseignement est le plus dépolitisé. Et c'est en dessous de ça, c'est là où l'enseignement, est, du moins l'idéologie dominante, est le mieux transmise.
Près de 20 ans plus tard, Richard Descoings s'en rend compte. Pas grand-chose n'a changé à Sciences Po. Tellement de conformisme. Mais quel gâchis ! Cette école est si belle. Il serait tellement jubilatoire d'y réformer les mentalités, de renverser la table. Quelle revanche ! Il suffirait pour cela de prendre les commandes. Écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Richard Descoings.
France Inter, Affaires Sensibles.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un objet un peu canonique de la science politique, les partis politiques. Alors, quand on approche cette question des partis politiques, il faut savoir que c'est une des institutions, une des organisations politiques qui aujourd'hui fait l'objet du jugement le plus sévère de la part des Français. Dans une dernière enquête réalisée au sondage.
Extrait d'un cours à Sciences Po par le politologue Pascal Perrineau. Quelques années ont passé. Devenu conseiller à la direction de Sciences Po, Richard Descoings assure parallèlement les fonctions de chargé de mission pour Michel Charras et Jack Lang, toujours dans le secteur de l'éducation. C'est donc tout naturellement qu'en 1996, Lancelot lui propose de lui succéder. Enfin, tout naturellement. Pas tant que ça. Car Richard Descoings est jeune pour la fonction, il n'a que 38 ans. Pire encore, il paraît jeune. Et des rumeurs courent sur ses affres, cocaïne, ecstasy, tout y passe. Et de fait, sa silhouette est nerveuse, son visage émacié, son regard souvent fiévreux. En somme, quelque chose en lui ne reflète ni l'autorité ni la bonhomie inhérente à tout directeur d'établissement comme Sciences Po. Alors, côté Taylor, forcément ça coince. Certains réfractaires s'enquièrent aussi de l'avis de René Raymond. L'âme de Sciences Po, grand historien, spécialiste des droites françaises, des trois droites nationales, bonapartistes, orléanistes. Mais Descoings rappelle que François Mitterrand et Jacques Chirac ont été ministres à moins de 40 ans et que l'école a besoin de sang frais. Richard est donc adoubé. Son projet, moderniser Sciences Po, qu'il envisage économiquement productive. Et il l'assume, comme ici, au micro d'Yves Calvi sur France Inter.
Sciences Po, c'est une grosse PME en forte croissance. Une grosse PME, je vous dis, 750 salariés, c'est pas rien. On doit assurer la gestion de 200 chercheurs et enseignants-chercheurs qui sont à titre permanent à Sciences Po. C'est 8400 élèves qu'on essaie de chouchouter chacun. Et puis, c'est 2300 intervenants qui sont des responsables d'entreprise, des fonctionnaires, des professeurs qui viennent d'autres universités. Donc oui, il y a un aspect gestion. Il y a un autre élément.
Mais vous percevez comme ça, vous, par moment, dans un...
Oui,
je dirige une entreprise.
Je dirige une entreprise avec une responsabilité face à un conseil d'administration. Et ce qui rapproche encore plus Sciences Po d'une entreprise, c'est que notre comptabilité est une comptabilité d'entreprise.
Oser en France et de façon si décomplexée agréger l'esprit à l'argent, c'est pour le moins inédit. Et ça passe. Car Descoings a la confiance des puissants et il a compris l'intérêt de s'allier avec les syndicats. Exemple, en 1995, il souhaite augmenter de 50 francs les frais de scolarité, ce qui ne passe pas auprès des syndicats UNEF et Sud. Qu'à cela ne tienne, il convoque les deux étudiants qui dirigent ces sections syndicales et propose 500 000 francs, 115 000 euros, de bourses supplémentaires pour les élèves nécessiteux. C'est ainsi qu'en un après-midi, les syndicats étudiants sont calmés. Les étudiants maintenant. Descoings se souvient qu'avant son départ, Lancelot avait été mis en difficulté au sujet d'un projet visant à interdire le redoublement en AP, comprenant en classe préparatoire. Eh bien, qu'à cela ne tienne, là encore, le nouveau directeur remise immédiatement le projet aux oubliettes. Il l'a compris, rien ne vaut l'attachement de la jeunesse, qu'il va continuer à câliner, et qui en retour va accepter tous ses projets, même les plus fous, même à marche forcée. L'idée de désenclaver l'école en est la meilleure preuve. C'est ce qu'on appelle la décentralisation universitaire. Son premier choix se porte sur Nancy. Et ce n'est pas un hasard. Richard Descoings entend trop souvent les chefs d'entreprise se plaindre du manque de cadres maîtrisant l'allemand, par exemple. À Nancy, le vivier des étudiants bilingues est grand et le succès assuré.
Nous allons faire travailler ensemble des étudiants allemands et des étudiants français, des étudiants germanophones et des étudiants francophones, qui s'apprécieront, qu'ils apprendront à travailler ensemble et que donc plus tard, c'est-à-dire dans 10 ans, 15 ans, ils seront ensemble cadres d'entreprise, ensemble fonctionnaires, ensemble chercheurs. Et je pense que là, on aura réussi notre mission d'enseignement supérieur et de service public.
Bientôt, les décentralisations se succèdent. Dijon, Menton, Le Havre, Reims, Poitiers. Par le biais de rallonges ministérielles cadencées, sans que l'on ait recours au moindre appel d'offres, le voilà qui contracte les prêts. Et peu importe le prix, c'est désormais le secteur privé, comme Total ou SFR qui finance les campus, puisqu'on parle désormais de campus. Descoings profite aussi de la réforme de Claude Allègre pour allonger les cursus de 2 ans, avec de nouvelles appellations, bachelor, master. L'objectif est clair, Sciences Po doit devenir le Harvard français. C'est ainsi que s'impose l'idée des échanges universitaires, avec la London School of Economics, bien sûr, mais aussi la Freie Universität de Berlin, la New Yorkaise Columbia ou la canadienne McGill, avant de mettre le cap sur l'Asie. Puisque ce début de millénaire célèbre la mondialisation et que le film L'Auberge espagnole cartonne, autant en profiter. De toute façon, on pardonne tout à Descoings. Car enfin, quel autre directeur que lui dialogue avec ses élèves sur Facebook, hein ? Ou les rejoint en Café Basile, ou danse avec eux en boîte de nuit ?
Madame, Monsieur, bonsoir. C'est décidément un film politique en accéléré que vit la France depuis quelques temps. Vous venez de le voir, après la démission d'Alain Juppé, ce matin, Lionel Jospin a été reçu à l'Élysée pendant une heure par Jacques Chirac, qui lui a proposé le poste de Premier ministre. Proposition acceptée.
C'est la période où la gauche plurielle de Lionel Jospin est à Matignon et qu'une vague d'optimisme saisit les pouvoirs publics. Alors Richard se sent pousser des ailes. Les diplômes internationaux lui ont attiré les faveurs de la droite et il est temps de regarder à gauche. Nous sommes en 2002. Et là, personne n'imagine que Jean-Marie Le Pen atteindra le deuxième tour de la présidentielle. On caresse même l'espoir que la France pourra se régénérer avec ses banlieues. La victoire de l'équipe de France en juillet 1998 en Coupe du Monde est passée par là, avec l'idée d'un pays black, blanc, beurre, dont Jacques Chirac parle lui-même lors de la très monarchique interview du 14 juillet.
La France a été le pays qui a le mieux ressenti, compris la nécessité de l'intégration. Et aujourd'hui, c'est vrai, cette équipe à la fois tricolore et multicolore donne une belle image de la France dans ce qu'elle a d'humaniste, dans ce qu'elle a de fort, dans ce qu'elle a de rassembleur.
Alors Richard, pousse ses pions. Après avoir appâté les étudiants de l'international, le temps est venu d'intégrer les jeunes de banlieue. Car il faut le reconnaître, l'endogamie restait de mise. Et les chiffres l'attestent. En 98, seul 1,5% des enfants d'ouvriers passent le concours. Et seul 1,5% d'entre eux sont admis. Choquant, oui. Alors que faire ? Eh bien, faciliter l'entrée de ces jeunes de banlieue par le biais d'un concours sur mesure, comprendre sans l'épreuve de synthèse ou de dissertation jugée socialement trop discriminante. À la place, une simple revue de presse orale qui permettra de juger de leur capacité à lire les journaux et à organiser leurs pensées. Or, voilà que le 27 février 2001, le journal Le Monde titre « Sciences Po s'ouvre aux élèves de banlieue en le dispensant de concours ». L'onde de choc est considérable. En première ligne, bien sûr, l'UNI, le syndicat de droite qui refuse qu'on touche au concours unique, ce fleuron de l'égalité républicaine. Et le tribunal administratif est saisi. Bronca dans l'arène politique qui découvre la question de la discrimination positive. Alors, pour faire passer sa convention d'éducation prioritaire, rebaptisée réforme ZEP, Descoings se livre à une intense démarche de lobbying. Il rencontre le sénateur Xavier Darcos, séduit le porte-parole du groupe RPR à l'Assemblée, arpente les loges maçonniques, aucune coterie n'est à négliger, ni aucun média, comme ici sur France 3.
La principale discrimination aujourd'hui, c'est l'inégalité des lycées, des lycéens, face à l'accès à l'enseignement supérieur sélectif. La discrimination, elle est là. Donc il s'agit de rétablir un peu d'égalité en utilisant plusieurs instruments de sélection. Donc je récuse totalement l'idée qu'il y ait discrimination par cette mesure. Ça n'est pas cette mesure qui crée la discrimination. Il y a discrimination au sein du système éducatif français.
Il n'empêche, le débat fait rage à l'intérieur même de Sciences Po qui voit fleurir des graffitis hostiles. Le 17 juillet 2001, dans une ambiance électrique, le Conseil d'État finit par approuver la loi permettant la convention ZEP avec 17 lycées. Richard Descoings peut souffler et se féliciter. C'est durant cette période d'intense défi qu'une femme entre dans sa vie. Un événement qui étonne, car jusqu'à présent, il vivait avec Guillaume Pépi. La rumeur court même qu'il aurait lancé au micro de l'amphi Boutmy être le premier PD de l'école. Je le répète, c'est une rumeur, pas une info. Reste que seule une femme sortant de l'ordinaire pouvait lui faire tourner la tête. Et Nadia Maric est de ces femmes. Altière, intrépide, rien ne lui résiste. Elle aussi est disruptive. Ancienne énarque, elle a travaillé dans la pub. Ancienne collègue de Jacques Plan, le conseiller com de Mitterrand. Elle a rejoint l'UMP où Alain Juppé l'a nommée secrétaire nationale chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et puis ses talons hauts, et puis son regard. À la stupeur générale, Descoings la nomme directrice adjointe et l'épouse le 28 mai 2004, entourée de l'intelligentsia parisienne et de Guillaume Pépi, témoin de ce mariage. Ensemble, Richard et Nadia martèlent vouloir créer, je cite, une Sciences Po Dream, c'est-à-dire un établissement européen avec un horizon mondial. Mais embaucher des professeurs de renommée internationale revient cher. Alors, Descoings augmente les frais de scolarité et nouveaux scandales et nouvelles explications dans les colonnes du Monde en octobre 2003.
Descoings agace. On lui reproche son bougisme, des réformes poudre aux yeux, un autoritarisme pressé ne ménageant pas le temps de la réflexion ni la parole des syndicats. Au CE, on dénonce des dépenses destinées à l'esbrouf. Frais de réception, réfection de la cafette en cybercafé aux aires de nightclub, voyage avec les étudiants. Au SNEP FSU, on l'accuse d'avoir prouvé abondamment qu'il passait en force en se débarrassant des problèmes des gens. À l'UNEF, on se pince. Il est très habile pour faire passer les réformes en escamotant les débats sur le mode « t'es pour ou t'es con ». Mais selon Descoings, le rêve, ce serait qu'un étudiant hésite entre Harvard, Columbia et Sciences Po. Sauf qu'invité Ezra Suleiman, professeur à Princeton, ou Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, a donné des cours magistraux pour 4000 euros par mois, il rigole. Alors, on compense. L'honneur d'enseigner à Sciences Po, avoir un logement à Saint-Germain-des-Prés. Pour quelques mois, ça passe. Mais le système est à bout de souffle.
Nadia Maric va encore plus loin lorsqu'elle déclare « no price, no value ». Autrement dit, quand on ne paye pas, on ne considère pas que c'est un investissement. Une phrase de droite, un peu oui. Ce qui n'empêche pas Descoings de rappeler qu'augmenter les frais de scolarité des plus riches est synonyme de justice sociale, puisque cela permet d'accueillir davantage de boursiers. Et de déclarer aux Parisiens « J'ai été perçu comme un directeur gauchiste parce que j'avais travaillé dans les cabinets de Lang et de Charras. Puis on m'a accusé de sarkozisme, et maintenant on va dire que je roule pour Besancenot. Et bien tant mieux !» En tout cas, tous sont bluffés par son aptitude à transcender les clivages. Nicolas Sarkozy en tête, qui le charge d'une mission pour relancer la réforme des lycées. Ce qui se traduit par un plaidoyer contre la lourdeur du mammouth, pour reprendre l'expression de Claude Allègre, et une apologie pour l'autonomie des lycées. Un axe libéral qui n'est pas pour déplaire à Nicolas Sarkozy, qui songe à le nommer ministre. Et la rumeur court dans Paris. Réponse de l'intéressé au micro d'Élise Lucet.
Si je vous parlais de Nicolas Sarkozy, c'est pas tout à fait un hasard. Si on vous proposait par hasard, demain, après les élections européennes, lors d'un remaniement ministériel, de devenir ministre de l'Éducation nationale, quelle serait votre réponse?
J'ai passé 5 mois avec passion à travailler avec des personnes qui m'ont fait confiance parce qu'elles pensaient vraiment que je ne faisais pas ça par calcul personnel. Je voudrais qu'on remette un peu de gratuité et de désintéressement dans l'engagement public. Être ministre, c'est participer à une équipe qui veut accéder au pouvoir, qui veut exercer le pouvoir, qui veut ensuite être réélu. Moi, je m'engage dans l'action publique, mais je ne me suis pas engagé pendant 5 mois. Je n'ai pas demandé leur confiance à tant de personnes pour servir une cause personnelle.
Pourquoi en effet devenir ministre? Avec Sciences Po, Descoings est le roi du monde et n'a de compte à rendre à personne. Surtout pas ceux qui s'inquiètent de son train de vie, de sa politique et de ses manières autocratiques. Ceux-là disparaissent de l'organigramme. Les autres courbent les chines ou claquent la porte. Car enfin, à qui se plaindre? Lors d'une réunion, voilà que Descoings déclare « Vous allez chacun me désigner le nom de la personne qui pourrait vous remplacer au cas où vous devriez partir. » À mi-mot, on parle purge. Le 4 septembre 2010, dans le Figaro Magazine, Natacha Poligny prend la plume. À celui qui est qualifié de Madoff de l'enseignement supérieur, on prédit que son système va s'écrouler. Il est un politique pur, mais trop énigmatique pour trouver sa place dans un quelconque parti. Et il sait bien que tout cela n'a qu'un temps. De fait, le 13 décembre 2011, un article de Mediapart casse la dynamique. Après avoir enquêté sur la maltraitance réelle ou supposée qui pointe au sein de l'école, la journaliste Jade Lingard met la main sur un rapport explosif de la Cour des comptes.
Pour ajouter aux ennuis, la Cour des comptes a annoncé un contrôle en septembre 2011. Les contrôleurs se sont mis à fureter partout, à regarder les salaires de la direction aussi. Ils ont fini par découvrir une curiosité. Une fois par an, dans la salle à manger de la rue Saint-Guillaume, se réunit un comité des rémunérations. C'est là que se décident les salaires et surtout les primes de l'école. Oh, il n'y a jamais de très vives discussions parmi ces gens bien élevés. Richard Descoings arrive avec ses fiches d'évaluation sur chacun de ses collaborateurs et propose la rémunération qui pourrait convenir. Et le banquier Michel Pébreau a recommandé de faire un peu de benchmark, c'est-à-dire un tour d'horizon comparatif de ce que gagnent les présidents d'universités anglo-saxonnes afin de s'aligner sur leur salaire.
S'aligner sur les universités étrangères, mais que viennent faire les barèmes anglo-saxons dans nos écoles françaises? Eh bien, ils viennent relever le niveau qui, depuis l'Hexagone, ne fait pas rêver. On découvre alors qu'en 2011, les 10 membres du comité exécutif se sont partagés 295 000 euros de primes, et que l'année précédente, l'enveloppe était encore plus grosse, 420 000. Mais surtout, on apprend que Descoings gagne entre 5 et 10 fois plus qu'un président d'université. Que sa rémunération annuelle est passée de 315 000 euros à 537 000 en 5 ans, soit une augmentation de 70%, sans compter les primes de Nadia Maric. Pour un établissement censé enseigner le sens du bien public, c'est un peu gênant. Alors, les étudiants réagissent.
C'est fondamentalement choquant dans la mesure où ça va contre l'impératif de démocratisation de Sciences Po qui, tel qu'il est revendiqué par la direction depuis déjà 5 ans.
On a une image assez opaque de la direction de Sciences Po et aujourd'hui c'est triste de voir un peu les dessous de toute cette direction qui en fait n'a pas été très claire sur les comptes ces dernières années.
Après le management à l'affectif, c'est désormais le détournement des frais d'inscription qui accable la direction. Et rue Saint-Guillaume, on se mobilise. Le directeur de la communication, le 7e en 7 ans, décide de monter une cellule de crise à l'issue de laquelle il est décidé d'assumer les primes. D'autant qu'Olivier Duhamel, un proche de Richard Descoings, l'a convaincu que démissionner, ce sera un aveu. Alors, les éléments de langage se succèdent du style à tout dirigeant exceptionnel, salaire exceptionnel. Comme ici, dans Libération.
Si l'on compare ma rémunération aux 4500 euros d'un président d'université, que faut-il penser ? Qu'ils sont mal payés ou que je le suis trop ? Un étudiant peut-il me dire, les yeux dans les yeux, que lorsqu'il sera cadre dirigeant, il n'espère pas gagner 4 fois plus que dans son premier emploi ? Le fait que je sois payé comme je le suis, est-il vraiment une atteinte aux valeurs ? Si je n'avais aucun résultat, on pourrait dire que ce n'est pas normal. Mais ce n'est pas le cas. Est-ce que je suis trop payé ? La réponse est non.
Apprenant le montant de la prime qu'il trouvait exorbitante, Richard Descoings aurait envoyé une lettre au président du conseil d'administration de la FNSP dans laquelle il recommande à l'avenir que sa rémunération soit moins importante et surtout, il fait part de sa décision d'en reverser près de la moitié du montant net après impôt en bourse pour les élèves, ce qu'il a fait, effectivement. Descoings ne serait pas proprement parlé un homme d'argent, en tout cas pas pour lui-même, mais rien n'y fait. Et la presse ne voit en lui qu'un tartuffe bling-bling. Sans dire comme l'avoue, c'est la fin d'un mythe. Heureusement, il y a ce symposium prévu à Columbia au mois d'avril. Richard pourrait y rencontrer des dirigeants autrement moins mesquins que ses confrères français. Or, le mardi 3 avril 2012, à 9h, Richard ne se présente pas à Columbia. On pense qu'il dort encore. Mais c'est étrange, ça ne lui ressemble pas. À midi, l'attente devient inquiétante et on demande au garçon des tâches d'intervenir. Il ouvre alors la porte de la chambre 723 et découvre Richard Descoings mort, étendu sur son lit. Et c'est reparti bien sûr pour les plus folles rumeurs. Deux escort boys seraient montés dans sa chambre vers 1h du matin. On aurait retrouvé de l'alcool et des drogues. Plus étrange, son téléphone et son ordinateur auraient été jetés par la fenêtre avant d'atterrir sur un parapet du 3e étage. Et puis surtout, il y a ce rapprochement inévitable avec l'affaire DSK, survenue 2 ans plus tôt à 5 blocs de là. Drôle de signal. Sur place, une enquête est ouverte par la police new-yorkaise, ainsi qu'une autopsie, tandis qu'à Paris, une émotion immense envahit la rue Saint-Guillaume.
De longs applaudissements pour saluer le travail de Richard Descoings. Ce matin, ils étaient plus de 600, élèves, professeurs et amis, rassemblés dans la cour de Sciences Po pour rendre hommage à celui qui était à la tête de l'établissement depuis 16 ans et qui faisait l'unanimité autour de lui.
On l'a appris cette nuit sur Facebook et ça nous a tout de suite beaucoup touchés. Enfin, c'était vraiment, il était chez lui, ici, c'était sa maison. Et,
Je crois qu'on est bouleversés. C'est une personnalité tellement rayonnante et on le voit ici. Oui, bouleversé et admiratif.
Face au contexte sordide et suspect, une cellule de crise est improvisée, à l'issue de laquelle on décide d'étouffer l'enquête pour ne miser que sur l'émotion. La tristesse des élèves, l'essor de l'école, les fêtes merveilleuses, le destin de l'homme exceptionnel. Et on organise des funérailles somptueuses, dignes d'un chef d'État, avec force caméra. On respecte aussi l'étrange message envoyé par Richard avant son départ. Les fleurs, Mozart, le lieu des funérailles. Seule l'association LGBT Plug and Play a discrètement été repoussée sur les côtés. À sa place, des ministres, des hauts fonctionnaires et tout le gratin, même Barack Obama, a envoyé une lettre. Personne n'ose alors évoquer les circonstances étranges de sa mort. Seul un ministre finit par lâcher à la journaliste Raphaël Baquet. Dans n'importe quel pays anglo-saxon, un homme comme lui aurait sauté. Mais les élites françaises acceptent pour le bien de leurs enfants ce qu'elles refusent au commun des mortels.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Richard Descoings, l'électron libre. Notre invité, Xavier Brunschvicg. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes directeur de la communication pour l'agence Clashman Corp, que vous avez fondée, hein, spécialisée dans les questions d'opinion et image publique, ainsi que dans les gestions de crise. Mais surtout, vous avez personnellement connu Richard Descoings. Après avoir été élève vous-même à Sciences Po, vous êtes devenu son directeur de communication. Et vous avez en mai dernier publié dans Les Échos une tribune contre la dégradation de l'esprit Sciences Po, une tribune titrée « De l'internationalisation jusqu'à la perdition ». On y reviendra bien sûr. Mais d'abord, travailler avec Descoings, ça se traduisait comment? Quels souvenirs vous en gardez?
Quelque chose d'assez flamboyant. Richard était une personnalité non seulement attachante, mais habitée par une idée qu'il se faisait de l'éducation. C'était quelqu'un qui était profondément passionné et habité par cette question de l'enseignement supérieur. Et il se sentait investi d'une mission. Donc pour moi, Richard, c'est avant tout l'homme qui a voulu faire bouger les lignes dans le monde de l'enseignement supérieur. Et les conventions éducation prioritaire dont vous avez parlé, les conventions ZEP, c'était tout à fait ça. C'était comment passer d'un principe un peu abscon qui est celui de l'égalité des chances, qui est très théorique, pour renouer avec la véritable promesse républicaine de l'égalité des chances. Et donc, quand il a mis ça en place, ça a effectivement provoqué un débat absolument considérable dans l'opinion publique française, mais ça a été un moyen aussi de focaliser l'attention de l'opinion publique sur un enjeu qui est absolument majeur, celui de l'égalité des chances dans l'enseignement supérieur sélectif.
Et parmi toute son action, vous pensez que c'est celle qu'on retient le plus, c'est la plus spectaculaire, c'est celle qui fait le plus avancer les choses?
Moi, je pense qu'il y en a deux qui sont assez, il y en a trois qui sont assez fondamentales, deux très visibles et une qui l'est moins. La première, c'est les ZEP, effectivement, pour renouer avec cette promesse républicaine. La deuxième, on peut dire que c'est l'internationalisation. Richard Descoings a été absolument visionnaire, c'est-à-dire que ça a été le premier à adopter le système 3-5-8 licence, master, doctorat avant toutes les autres universités françaises, avant toutes les autres IEP de province. Ça a été le premier à conclure à marche forcée des accords avec des universités internationales et des accords de partenariat. Et enfin, quelque chose qui est moins connu, mais c'est pourtant fondamental, c'est comment il a permis de muscler considérablement tout l'appareil de recherche de Sciences Po. Il avait bien compris que si Sciences Po voulait être compétitif sur la scène internationale, ça passait par l'excellence académique et l'excellence de la recherche. Et il a donné beaucoup de moyens à la recherche à Sciences Po.
Alors, ce bilan-là est un peu occulté aussi par la personnalité. Nous avons commencé le récit avec la fête berlinoise en 2001, durant laquelle Richard Descoings a dépassé le cadre habituel d'un directeur. Vous y étiez. Alors c'est vous qui l'avez extrait de la boîte de nuit. Et sa devise était très représentative. Il disait « Pour être innovant, il faut être déviant ». Comment l'interpréter?
Vous avez intitulé votre récit « Richard Descoings, l'électron libre ». C'est tout à fait vrai. J'ai une autre suggestion également, qui serait assez complémentaire de la vôtre, c'est Richard Descoings, l'écorché vif. Allez. Richard Descoings était un écorché vif. C'est quelqu'un qui fonctionnait à la reconnaissance. Oui, il avait besoin de transgresser parce qu'il avait aussi compris que pour arriver à faire bouger les lignes, il fallait parfois transgresser. Et Richard Descoings était fondamentalement un homme transgressif. Mais il transgressait, à mon sens, pour le bien commun. Vous savez, quand il est arrivé, il y a eu deux réformes qu'il a entreprises et qui peuvent paraître assez symboliques, mais qui sont très représentatives de, et qui font de l'attachement qui a été celui des élèves pour Richard. Le premier, c'est qu'il a autorisé, vous en avez parlé, le redoublement en année préparatoire. Oui. C'est quelque chose pour lequel on se battait, y compris moi quand j'étais étudiant, pour l'obtenir, il l'accorde. Et deuxième chose, peut-être plus légère, il a autorisé les élèves à s'installer sur la pelouse qui était sous les fenêtres de son bureau. Depuis 1871, ce n'était pas autorisé. Et lui, il a dit « installez-vous ». Et il voyait, sous ses fenêtres, des élèves se faire des bisous sur la pelouse et ça le rendait heureux.
France Inter. Sensible.
Xavier Rangevic, vous avez été le DIRCOM de Richard Descoings. J'ai remarqué que, depuis le début que nous parlons, quand vous parlez de lui, vous dites « Richard, t'es un proche ». C'est quoi le lien qui vous unissait et qui vous unisse aujourd'hui dans la mémoire, dans le souvenir ?
Moi, j'ai toujours vouvoyé Richard Descoings. Je l'ai toujours considéré comme mon patron. Mais en tant que directeur de la communication de Sciences Po, j'avais une double responsabilité. C'était déjà d'abord de veiller à l'école en tant qu'établissement d'enseignement supérieur et à sa réputation, à son image. Mais j'avais également pour responsabilité de veiller à l'image de celui qui l'incarnait, Richard Descoings. Donc ça impose une certaine proximité et une certaine complicité, tout en restant dans la fonction qui est la mienne. Donc oui, j'ai cultivé cette intimité avec Richard, effectivement.
Alors, qu'en est-il de ce que vous savez, de ce que vous pouvez nous dire, des dérives financières réelles ou supposées ?
À l'époque, honnêtement, moi je suis resté entre 2000 et 2004, c'était une période de pleine effervescence, effectivement, mais on n'était pas encore passé à tout ce qui est levée de fonds, etc. On commençait à s'y intéresser. Moi, ce que je vois, et c'est peut-être une critique que l'on peut formuler, c'est que à mesure que l'aura, l'influence de Richard et de Sciences Po se développait, on n'a pas su, en parallèle, mettre en place des contre-pouvoirs. Richard avait 10 000 idées à la minute, et c'était formidable, c'était extrêmement fécond. Mais vous avez besoin aussi, parfois, de mettre des limites.
Alors, on va parler de Sciences Po aujourd'hui. Vous écrivez dans les Échos, vous avez écrit dans les Échos, les dérives actuelles sont-elles le fruit de cette intégration internationale ? On peut raisonnablement le penser. C'est-à-dire que Sciences Po aurait perdu son âme. Vous déplorez le fait qu'on n'y parle plus d'Assemblée Générale, mais de Town Hall.
Sciences Po a compris, et Richard le premier, qu'il fallait s'inscrire dans la compétition internationale pour être attractif, pour recruter les meilleurs enseignants, etc.
Vous étiez d'accord avec ce postulat ?
Et je suis complètement d'accord. Mmh. L'international a fait un bien fou à Sciences Po. Et cette politique, il faut la préserver, il faut même l'amplifier. Aujourd'hui, Sciences Po est peut-être l'établissement le plus international qu'il y a sur la, en France. Donc ça, c'est très bien. Ce que je reproche, c'est qu'on a voulu peut-être un peu trop se conformer à un modèle international qui n'était pas le nôtre. Quelque part, on y a perdu notre âme. Moi, je pense qu'on aurait dû s'engager dans cette compétition internationale, mais en réaffirmant la singularité du modèle Sciences Po, qui est un modèle un peu old school, très Troisième République, qui arrive à concilier élitisme et méritocratie, et en même temps qui est très universaliste et pas wokiste, etc. Et donc, c'est peut-être ça que Sciences Po a perdu dans cette internationalisation. Mais il ne faut surtout pas la remettre en cause. L'internationalisation est extraordinairement bénéfique pour l'établissement, mais on s'est un petit peu perdu, et donc il est temps de réaffirmer un certain nombre de fondamentaux dans cette compétition internationale.
Oui, mais vous écrivez aussi, si je vous ai bien lu, Sciences Po, plus personne n'y comprend rien. Ça, c'est vrai.
Je pense qu'il y a trois enjeux pour Sciences Po aujourd'hui, en termes, en tout cas, de positionnement. Il y a un premier enjeu qui est un enjeu d'identité. C'est quoi Sciences Po ? Qu'est-ce qu'on y apprend ? Quelle est la singularité de son projet éducatif ? Aujourd'hui, oui, les gens, on ne sait pas trop. Donc, il faut rappeler ce qu'est l'identité de Sciences Po. Il y a un deuxième enjeu, à mon sens, qui est un enjeu de lisibilité. Comme vous l'avez dit, on n'y comprend plus rien à Sciences Po. Entre...
C'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous.
C'est un peu rappelé dans le récit. Mais voilà, on ne sait pas comment on y rentre, on ne sait plus ce qu'on y étudie. Il y a les premiers cycles de Sciences Po en province, et on ne voit pas trop la différence avec les IEP de province, etc. Donc il y a un enjeu de lisibilité, les maquettes pédagogiques, etc. Tout le monde est paumé. notamment les recruteurs et les anciens élèves. Et enfin, il y a un troisième enjeu, qui est un enjeu d'autorité. Moi, j'ai beau être de gauche et progressiste, je pense qu'il faut serrer un petit peu les boulons à Sciences Po. Et autant Sciences Po doit être un lieu de débat, autant Sciences Po, c'est pas la ZAD. Et là, on a le sentiment, depuis quelques années, que, et surtout ces derniers mois, qu'il y a plus de pilotes dans l'avion et que les étudiants, notamment une minorité, manifestent, font un peu la loi. C'est normal que des étudiants qui ont 20 ans se mobilisent pour apporter leur soutien aux Palestiniens. Il n'y a rien de choquant à ça. Ce qui est choquant, c'est la façon dont c'est fait. C'est d'avoir des étudiants qui sont masqués, d'avoir des étudiants qui ne veulent pas discuter, d'avoir des étudiants qui donnent le sentiment d'ostraciser ou de délégitimer la parole d'autres. Mais ça, ça a été rendu d'autant plus possible qu'il n'y a personne en face. Et ce qu'on peut reprocher peut-être à Sciences Po, c'est qu'on a laissé libre cours à ces étudiants-là et on n'a pas été capable d'avoir quelqu'un en face, notamment la direction, qui est là pour dire on arrête la récré. Et ces étudiants, qui sont une minorité et dont beaucoup d'autres étudiants souffrent, ils ont obtenu une part de voix qui est complètement disproportionnée par rapport à ce qu'ils représentent.
Une toute dernière question. Le souvenir de Richard Descoings est-il toujours vif à Sciences Po aujourd'hui, au moment où nous parlons?
Alors moi j'y suis plus, donc je peux pas vous répondre.
Mais qu'est-ce que vous en savez ?
Moi ce que j'en sais, c'est que les réformes qu'il a initiées, aujourd'hui tous les directeurs les ont reprises. Parce qu'elles restent opérantes. Et que ce soit Frédéric Mion ou Mathias Vichra, le fait de muscler la recherche, le fait d'avoir de plus en plus de professeurs, une chaire permanente, un corps enseignant permanent à Sciences Po, de développer les ressources documentaires, d'avoir créé un campus urbain, ça c'est formidable. Sciences Po, ça reste à Paris, on ne s'est pas délocalisé à je sais plus trop où. Et ça, dans la compétition internationale, c'est majeur. Quand vous voulez recruter un prof, vous n'avez pas les moyens de le payer comme il pourrait être payé à Harvard. Mais vous pouvez, comme vous l'avez rappelé, lui proposer un appartement de fonction à Saint-Germain-des-Prés. Et ça, ça compte.
Merci infiniment, Xavier Brunschwig.
Merci
de votre témoignage et de vos éclairages. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Richard Descoings, l'électron libre ou l'écorché vif. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Jérôme Ragano.